Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Le journal avec Joséphine Jones Mundimana.
Merci d'écouter la radio Nzamba Gatikakawe. C'est le moment du journal en français, dont voici d'abord les principaux titres. La jeune femme Krista Kaneza vient de recouvrer la liberté après 10 mois d'incarcération à la prison centrale de Mimba. Elle était accusée d'être impliquée dans l'assassinat de son mari Thierry Kugiman. Et puis l'Union européenne a prolongé les sanctions prises contre le Burundi jusqu'en octobre 2022. L'OFORSC pense que la décision a été prise parce que le pays continue à violer les droits de l'homme. Enfin, à l'hôpital de Rumonge, un médecin a continué à consulter les malades après avoir été testé positif au Covid-19 avant-hier lundi. Les patients craignent d'avoir attrapé cette maladie. Voilà pour le sommaire de ce journal. Nous sommes mercredi 1er décembre 2021. Joséphine Jones Mundimana à la présentation.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Cette bonne nouvelle pour commencer ce journal, après 10 mois d'incarcération à la prison centrale de Mimba, la jeune femme Krista Kaneza a été libérée aujourd'hui. Le FOCODE, le Forum pour la conscience et le développement, s'en réjouit. Il demande que toute la lumière soit faite sur les commanditaires de son emprisonnement. Pacifique Nazwe, c'est le président du FOCODE.
C'est un sentiment de soulagement et de joie que nous éprouvons. Les Burundais se souviennent ces moments honteux où Madame Krista Kaneza, alors âgée de 18 ans, a été exhibée par la police burundaise, accusée injustement par le porte-parole de la police, Pierre Ngurikiye, qui l'accusait d'avoir assassiné son propre mari, d'avoir collaboré avec des assassins de son mari, Thierry Kugimana, tué dans la nuit du 24 au 25 novembre 2020. Les gens se souviennent également que la police burundaise n'a jamais pu prouver ces accusations et que le tribunal de grande instance de Moura avait déjà décidé en février 2021 la libération provisoire de Krista Kaneza, étant donné que les accusations portées contre elle n'étaient pas fondées. Malheureusement, le service national de renseignement s'est opposé à cette libération provisoire. La cour d'appel de Moura a également décidé en août 2021 la libération provisoire de Krista Kaneza, mais encore une fois, cette décision des juges a été bloquée par le procureur général de Moura, toujours sous la pression du service national de renseignement. Cela aura pris 3 mois de détention illégale cette fois-ci de Madame Krista Kaneza pour que finalement elle soit libérée aujourd'hui. Nous remercions tous ceux qui se sont mobilisés pour faire libérer provisoirement Madame Krista Kaneza et tous ceux qui auront finalement pris les décisions qu'il fallait pour que Krista soit libre aujourd'hui. Mais encore une fois, nous rappelons que le combat continue. Nous continuerons à plaider pour qu'il y ait justice et pour que nous ayons toute la vérité sur l'assassinat de Thierry Kugimana, les mobiles de cet assassinat, ainsi que les commanditaires de ce crime odieux.
Et puis le harcèlement et les arrestations en cascade des membres du parti SNL continuent à s'observer en commune Mutambu dans la province de Bujumbura. Après l'arrestation du président de ce parti dans cette commune, actuellement détenu dans la prison de Mimba, aujourd'hui c'est le tour du responsable de ce parti sur la colline Masenga. Il a été arrêté ce mardi par des jeunes Imbonerakure et conduit dans le cachot de la commune. Les militants de ce parti crient à l'injustice. Les détails avec Georges Nimenya.
Les informations recueillies sur place à Mutambu disent que cette chasse aux membres du parti CNL s'est fortement accélérée après l'arrestation du représentant de son parti en commune de Mutambu, actuellement détenu à la prison centrale de Mimba. Cette arrestation a été suivie par celle d'un autre militant de son parti, connu sous le nom de Ntakirutimana Phocas, vivant sur la colline Ngovyi, détenu depuis 3 semaines dans les cachons du service de renseignement. Ce mardi 30 novembre, c'était le tour du représentant du parti CNL sur la colline Masenga de la même commune Mutambu. Il a été arrêté par des jeunes Imbonerakure. Il est pour le moment détenu dans le cachot de cette commune, comme le témoigne un des habitants de la localité.
Danseur, c'est le mot en date du 30 novembre. Un autre connu sous le nom de Focas, responsable du parti CNL sur la commune de Masienga, dans la même commune. Il a été arrêté alors qu'il partageait tranquillement un vin avec le chef communard Masienga. Il a été arrêté par des jeunes du Mbonerakure dirigés par un autre Mbonerakure connu sous le nom d'Odusingi Manavital, surnommé Yangwe, qui sème la terreur dans cette commune. Il a été accompagné de Serge et Bosco. Il a été conduit dans les cachots de la commune et ne connaît pas encore le mobile de son arrestation.
Ses habitants, surtout membres du parti CNL, disent qu'ils ne sont pas traités de la même manière au niveau de l'administration. Le cas le plus parlant est celui d'une fouille qui a été organisée ce mardi 30 novembre aux alentours de la commune. Un jeune Mbonerakure a été appréhendé avec des effets militaires, mais il a été vite relâché.
Nous constatons aussi qu'il y a une pratique de deux poids, deux mesures dans le traitement de la population. C'est au moment où, à la même date du 30 novembre, il y a eu une foule perquisition aux alentours de la commune. Un jeune Mbonerakure, connu sous le nom d'Eric, a été appréhendé avec une paire de chaussures militaires avec un pantalon de la police. Il a été conduit à la commune, mais quelques minutes après, il est revenu. On se demande comment quelqu'un qui a été appréhendé avec des effets militaires puisse être libéré aussi rapidement au moment où les militants du parti CNL sont injustement arrêtés et incarcérés dans les cachons de la commune ou du service des renseignements sans connaître le motif. Nous demandons aux différentes organisations de défense des droits humains ainsi de tous qui peuvent apporter leur contribution dans cette commune pour que ce harcèlement fait à l'endroit des militants du parti CNL cesse.
Suite à cette attitude de quelques membres du parti CNL qualifient de harcèlement, la rédaction de la radio Inzamba a appelé par téléphone Niongabo Jean-Pierre, administrateur de la commune Mutambu, pour plus d'éclaircissements sur cette affaire, mais sans succès.
Merci Georges Nimenya. Les violations sexuelles continuent à être une menace des droits de l'homme au Burundi. Pourtant, le ministère de la Solidarité des droits de la personne humaine et du genre dit avoir mis sur place un système d'alerte par rapport à l'identité des présumés violeurs. Cela a été dit ce mardi par le directeur général au sein de ce ministère, Donatien Giroukou-Gomba, dans un café de presse. Plus de détails avec Vanessa Muiteka.
Le ministère de la Solidarité des droits de l'homme et du genre indique qu'il a mis en place ses raisons pour des alertes rapides dans la lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre. C'est ce qu'a déclaré ce mardi Donatien Giroukou-Gomba, directrice générale de ce ministère.
Il y a une chose importante que nous avons pu réaliser. C'est la mise en place du réseau communautaire pour la lutte contre les violences basées sur le genre qui sont dans toutes les collines du pays jusqu'au niveau des provinces. C'est le système d'alerte rapide que nous avons créé. Cela fonctionne via téléphone. Chaque cas alerté nous est aussitôt informé et on travaille en synergie pour voir si on peut sauver quelque chose.
Cette déclaration est de loin être une réalité car certains administratifs et des Mbonerakure jeunesse du parti au pouvoir sont parmi ceux qui jouissent souvent de l'impunité devant de tels actes. Les cas les plus récents du mois, ceux qui ont été documentés par la radio Inzamba, sont celui de l'administrateur de la commune Muhanga dans la province Kayanza qui a été surpris lorsqu'il était en train de violer son domestique. Le second cas est celui d'un enseignant de la province Cibitoki, Edson Nakalutimana, qui est accusé de violer les élèves qu'il est censé éduquer et qui n'est pas inquiété. Edson Nakalutimana est le secrétaire exécutif des jeunes du Mbonerakure de la commune Mugui. La campagne SOS Torture Burundi a répertorié au cours des 5 derniers mois 54 cas de victimes de violences sexuelles basées sur le genre. SOS Torture Burundi indique que les victimes sont souvent découragées par l'inaction des institutions administratives et judiciaires dans les répressions de ce crime. Certains affichent une certaine forme de complicité aux présumés auteurs sur base des appartenances politiques. La province de Kalousi est la plus touchée par ces violences sexuelles basées sur le genre. Elle coiffe à elle seule plus de 50% des victimes selon SOS Torture.
Entre-temps, les sanctions de l'Union européenne contre le gouvernement burundais ont été renouvelées d'une année jusqu'en octobre 2022. Les dialogues initiés par le ministre de la Coopération Albert Shingiro et le représentant de l'Union européenne au Burundi n'ont pas abouti aux résultats escomptés. Le Forum pour le renforcement de la société civile et FORSC se dit satisfait de ces décisions prises, selon lui, pour conditionner le respect des droits de l'homme dans le pays. On fait le point avec Benny Axelakana.
Nous pensons que dans un proche avenir, comme vous pouvez le constater, nous pensons que nous allons retourner à nos relations traditionnelles.
L'espoir aura été de courte durée dans le camp du gouvernement burundais. Le ministre des Affaires étrangères n'a pas eu gain de cause. Après la reprise du dialogue avec les ambassadeurs de l'Union européenne au Burundi, visant la levée des sanctions prises contre le gouvernement burundais depuis 2015. Lors de la deuxième session tenue au mois de juin dernier, Albert Shingiro était parti sur de faux espoirs.
Nous clôturons cette séance sur une bonne note. Il nous a adressé une invitation pour une tournée dans certaines capitales de l'Union européenne. C'est aussi un geste qui montre que les relations commencent à se réchauffer davantage. Donc nous pensons que dans un proche avenir, comme vous pouvez le constater, nous pensons que nous allons retourner à nos relations traditionnelles et lever toutes les zones d'ombre qui ont caractérisé nos relations durant la petite période de 5 ans.
Les efforts du gouvernement burundais n'ont pas finalement été couronnés de succès. La décision de prolonger d'une année les sanctions a été prise par l'Union européenne. Le Forum pour le renforcement de la société civile indique que cela est un signe que l'Union européenne garde l'œil sur les violations des droits humains commises au Burundi. Maître Vital Chimilimana est le délégué général du FORSC.
Si ces sanctions sont prolongées pour une année, c'est en raison de l'insatisfaction de l'Union européenne envers le comportement du Burundi et qui n'a rien fait pour améliorer la situation des droits de l'homme, notamment par l'arrêt de la violence et d'autres violations des droits de l'homme, mais aussi l'inexistence d'efforts visant à lutter contre l'impunité des crimes. Nous saluons cette décision et nous sommes satisfaits que la communauté internationale garde un œil vigilant sur ce qui prévaut au Burundi en termes de respect des droits de l'homme.
À deux reprises, le Burundi et l'Union européenne ont tenté de reprendre la coopération pour arriver à la levée des sanctions économiques qui pèsent depuis 2015 lorsque l'ancien président Pierre Nkurunziza a décidé de briguer un troisième mandat inconstitutionnel. Le gouvernement d'Evariste Ndayishimiye devrait de son côté faire des progrès dans les droits de l'homme en attendant les prochains dialogues prévus l'an 2022.
Merci Benny Axelakana pour tous ces détails. Dans quelques instants, nous parlons santé.
Pourquoi faut-il se faire vacciner? La vaccination contre la COVID-19 est recommandée par les scientifiques et l'Organisation mondiale de la santé pour trois raisons. La vaccination protège les personnes vulnérables et réduit le nombre de cas graves et de décès. La vaccination diminue le nombre d'hospitalisations et permet de maintenir le bon fonctionnement du système de santé pour tous. La vaccination permet de lutter contre les conséquences sociales et économiques négatives de la pandémie.
Ceci est un message de la radio Inzamba, Agathe Kakao.
Les patients qui se sont rendus à l'hôpital de Rumonge lundi de cette semaine craignent avoir attrapé le coronavirus. Un médecin continue à consulter des patients pendant toute la journée alors qu'ils venaient d'être testés positifs au Covid-19. Et cela sous les ordres du directeur de l'hôpital, faute des absences des médecins qui s'étaient absentés ce jour. Les détails avec Parfait Moudassegana.
Des informations livrées par des employés de l'hôpital indiquent que cela s'est passé ce lundi lorsque seuls deux neuf agents qui travaillent dans cet hôpital s'y sont présentés. Un des employés a lui aussi été testé positif au Covid-19 ce lundi 29 novembre. Mais au lieu d'être mis en quarantaine, selon les mêmes sources, il a été contraint de rester au service de consultation pendant 12 heures par le directeur de l'hôpital. Des sources de la radio Inzamba dans cet hôpital affirment également que parmi les 9 employés de l'hôpital, un d'entre eux prenait des médicaments à la maison contre le Covid-19. Certains des patients qui s'étaient rendus à cet hôpital demandent que le directeur soit puni.
Nous sommes très inquiets au niveau de l'hôpital Mongue parce que nous voyons que les leaders qui étaient en train de protéger donc de stopper la propagation de cette maladie à virus corona, ceux qui deviennent des responsables donc dans la propagation. C'est quasiment incompréhensible de voir un responsable de l'hôpital qui constate un cas positif, mais qui le même cas positif continue à travailler et à propager donc la maladie. Nous demandons que des mesures soient prises à l'encontre de ces autorités administratives au niveau de notre hôpital de Mongue pour qu'ils soient punis conformément à la loi.
Suite à ces inquiétudes des habitants de la ville d'Ormongue, la radio Nzamba a essayé de contacter par téléphone Ernest Littorier, le directeur de l'hôpital de Ormongue. Son téléphone sonnait, mais il ne décrochait pas.
La suite de ce journal, après la destitution de l'ancien ministre du Commerce, Madame Capitaline Nizigimana, et du chargé des missions à la présidence de la République, Irène Kabura Muriano, c'est le tour de l'ambassadeur Jérémy Baniguani-Nzigo, qui était jusqu'hier secrétaire permanent du ministère, ayant le commerce et l'industrie dans ses attributions. Ce limogeage en cascade serait le résultat d'une colère du président Évariste Ndayishimiye pour n'avoir pas respecté sa volonté de voir le groupe des tambourinaires de Gishora participer à l'exposition qui se tient à Dubaï aux Émirats Arabes Unis. Dans cette édition, nous revenons sur les réunions de préparation de cet événement qui se déroulait avec des agendas cachés des uns et des autres. Le point avec Jean-Marie Ndabashinze.
Tout commence avec l'injonction donnée par le numéro 1 Burundi à son chargé de mission, Irène Kabura Muriano, de suivre le dossier relatif à la participation des tambourinaires de Gishora à l'exposition de Dubaï, un dossier que ce dernier exécute selon nos sources à la présidente de la République. Irène Kabura Muriano informe à son tour le ministère ayant la culture dans ses attributions et la bonne nouvelle tombe à l'oreille attentive des responsables de ces tambourinaires, comme le confirme l'un d'entre eux.
Le président en personne nous avait contacté pour l'accompagner dans son voyage à Dubaï. Il a par après confié cette tâche au ministère et on a par après été notifié.
Selon les usages des préparatifs d'exposition internationale, chaque pays désigne un commissaire général qui devient le représentant légal de son pays dans cette activité. Le Burundi est alors représenté par Patrick Nkurunziza, qui est directeur du commerce intérieur au ministère du commerce et du tourisme. Selon nos sources à Bujumbura et à Dubaï, c'est Patrick Nkurunziza qui a le dernier mot dans cette activité. D'après toujours les mêmes sources, toutes les réunions préparatoires de cette exposition ont été présidées par Patrick Nkurunziza et en aucun moment il n'a évoqué la participation des tambourinaires de Gishora. Ce qui fait croire qu'au moment où les stars de Gishora préparaient leurs documents, Patrick, lui, avait sa liste dans sa poche. Coup de tonnerre vendredi le 5 novembre, moins de 24 heures avant que la délégation burundaise ne s'envole pour Dubaï, le ministère ayant la culture dans ses attributions adresse une correspondance au ministre de Commerce Capitoline Nizigama pour exiger la présence des tambourinaires de Gishora à Dubaï. La lettre tombe dans les mains de son secrétaire permanent, ambassadeur Jérémy Baniguani-Nzigo, qui prend soin d'informer le ministre le lendemain, le 6 novembre, alors que ce dernier était déjà à l'aéroport pour le départ. Le président Évariste Ndayishimiye apprendra deux jours plus tard, c'est-à-dire le 8 novembre 2021, que ses tambourinaires préférés de Gishora n'ont pas eu droit au chapitre à Dubaï. Dans notre prochaine édition, nous vous dirons le désordre qui s'observe jusqu'à date si les stands réservés à la nation burundaise dans cette exposition internationale commencée le 1er octobre et qui prend fin mars.
Et pour boucler ce journal, nous parlons de ces affrontements de ce mardi dans la ville d'Ngozi entre les usagers des mototaxis et les agents de police. C'est suite à l'indignation exprimée par les motards qui sont souvent arrêtés par des polices déguisées en tenue civile. En cas de contravention, ces policiers leur demandent de l'argent sans que des preuves de paiement soient délivrées. Ces motards demandent à l'autorité hiérarchique au sein de la police Ngozi de stopper ce comportement des policiers qui mettent des tenues civiles pour rançonner les motards. Le point avec Josine Kadze.
Il s'agit d'un des chauffeurs des taxis motards de la province de Ngozi. Ils disent être menacés par des policiers qui se déguisent en tenue civile pour leur demander des documents identifiant leur moto, alors que c'est pour leur soutirer de l'argent. Celui qui refuse se voit infliger une amende par d'autres policiers en tenue policière qui sont appelés par leurs camarades en tenue civile. Ce mercredi, une bagarre a éclaté au centre urbain d'Ngozi sur les différents parkings, comme le témoigne notre source.
On nous trouve sur le parking habillés en culotte et en bottes. On nous demande des documents. Si on ne les leur présente pas, ça commence alors les discussions de la somme à donner. À partir de 30 000 francs au lieu de 150 000, on te laisse partir. Si tu refuses, on appelle les policiers en tenue de police affectés au service de roulage. Ils prennent la moto pour la confisquer au commissariat de police.
Ces chauffeurs de taxi-moto à Ngozi s'insurgent contre le commissaire provincial de la police à Ngozi, arguant qu'il n'a pas pu mettre à l'ordre ses policiers en tenue civile. Il accuse de complicité.
Le commissaire est venu, il a dit qu'il n'était pas au courant. Il est complice car la traque des motards a continué en sa présence.
Ces motards craignent que des bandits peuvent se faire passer pour des agents de police en tenue civile. Ils demandent que tous les agents de police soient identifiés en uniforme de service et les laisser travailler dans la sécurité. La rédaction Inzamba n'a pas pu joindre sur son téléphone le commissaire provincial de police Ngozi pour avoir sa version au sujet des accusations de ces taxis-motards.
Merci Josine Kadze, et c'est par là que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à toute l'équipe de la rédaction pour la collecte de ces informations que je viens de vous présenter. Au revoir et à la prochaine.